France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Dans une anesthésie générale, les femmes se réveillent plus vite que les hommes, quel que soit leur âge, leur poids ou le dosage qu'on leur a administré. Cette découverte inattendue, faite par hasard en 99, en a révélé une autre. Personne ne s'était jamais posé la question. En biologie expérimentale, comme dans la recherche médicale, en effet, la majorité des sujets des essais cliniques restent des hommes et la grande majorité des études réalisées sur des animaux emploient elles aussi presque toujours des sujets mâles. C'est ainsi que les médecins administrent aux hommes et aux femmes les mêmes doses d'antidépresseurs, par exemple, alors que les réactions diffèrent en fonction du sexe et que les femmes sont plus sujettes à l'anxiété que les hommes. Autrement dit, les femmes sont moins bien soignées. Certains scientifiques parlent à ce sujet de biais sexuel. Et c'est en partant de ce constat que l'essayiste américaine Kat Bohannon s'est lancée dans un projet très ambitieux, une histoire de la biologie évolutive qui place les femmes en son centre, autrement dit, une histoire de la sexualisation des corps depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'appelle Ève. C'est publié chez Flammarion et ça sort en ce moment. Kat Bohannon, bonjour.
Hello.
Vous avez étudié l'évolution du langage et de la cognition à Columbia. Vous avez écrit dans Science, The Atlantic, The Scientific American et dans beaucoup d'autres revues et magazines américains. Et pour ce livre, Eve, qui sort en ce moment, vous avez fait 10 ans de recherche, c'est ça ?
Yes, 10 years.
Oui, en effet, 10 ans.
Now, I was doing my PhD at the same time.
Alors, je faisais mon doctorat au même moment et je travaillais sur un livre. Et j'étais aussi très, très enceinte. Donc, c'est ce petit hobby utérin, en quelque sorte. Et donc, j'ai travaillé sur ce livre dans ma trentaine, sur ces 200 millions d'années d'évolution. Évidemment, c'est ambitieux.
Alors, je viens de le dire, les femmes sont moins bien soignées que les hommes. La plupart des expérimentations médicales et de la recherche se fait sur des spécimens mâles. Et parmi les raisons que vous pointez au début du livre, c'est que vous dites qu'il est difficile de contrôler les effets des cycles de fécondité des femelles, surtout chez les mammifères, et que du coup, l'ovaire lui-même passe pour un facteur de confusion. Et c'est pourquoi, à moins qu'un scientifique ne pose spécifiquement une question sur les femelles, le sexe femelle est laissé hors de l'équation. Du coup, les expériences se font plus vite, les articles sont publiés plus tôt et les chercheurs ont plus de chances d'obtenir des financements et les professeurs leur titularisation. Donc il y a tout un système, en fait.
Yes, it's funny. We know that women and girls are understudied.
Et pourtant, on sait bien que les femmes et les filles sont moins l'objet d'études, elles sont moins prises en charge. Mais pour une fois, c'est pas juste une histoire de sexisme. En général, on se dit de toute façon, c'est le sexisme. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des scientifiques et de la bonne science qui veut éliminer les facteurs confondants. Et donc, si on n'étudie pas l'utérus et si on ne s'intéresse pas aux hormones sexuelles, et ce qu'on ne sait pas, ce que l'auditeur ne sait peut-être pas, c'est que dans le corps des mammifères, tous les tissus ont des récepteurs aux hormones sexuelles. Alors, qu'est-ce que ça fait ? On est en train d'apprendre ce que ça signifie. On est en train de les étudier. Mais avant, on ne le faisait pas. Et donc, quand on est un bon scientifique, on se dit, moi, je voudrais interpréter mes données, je voudrais avoir des expériences élégantes. Et comment est-ce qu'on va avoir un contrôle, un témoin correct ? Eh bien, on va exclure les femmes. Et ça a été la réponse qui a été donnée par les scientifiques pendant des décennies.
Alors, parmi les exemples de matières non explorées, vous citez les graisses glutéo-fémorales, et vous donnez l'exemple de la liposuction, la graisse des hanches des jeunes filles qui peut être un des meilleurs indicateurs de la date de ses premières règles. Vous expliquez comment, au cours du dernier trimestre de la grossesse, le corps maternel se met à prélever et à déverser massivement ces graisses dans le corps du bébé. C'est une fonction particulière. Et pourtant, chaque année, vous dites, pour les seuls États-Unis, 190 000 femmes subissent une liposuction sans qu'on étudie les conséquences sur le corps. des femmes.
There's always a problem with the idea of cosmetic surgery. Yeah.
La chirurgie esthétique, elle pose toujours ce même problème. On se dit que, bon, il y a des parties du corps qui ne sont pas utiles, et on traite aussi les corps mâles de la même façon, mais pour les femmes, il y a aussi toute cette idée, ce cadre sexiste. Mais dans ce cas-là, c'est simplement que les chirurgiens esthétiques ne sont pas intéressés par ce tissu graisseux impliqué dans l'évolution. Et donc, ils ne savent pas que cette graisse glutéo-fémorale sur les hanches, sur les fesses, en fait, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui permet de stocker ces éléments qui sont absolument essentiel, et ça c'est très important pour le cerveau des petits bébés, et donc c'est une façon très différente finalement d'envisager le fessier féminin plutôt que de se dire eh bien à quoi vraiment c'est important, et bien à quoi ça sert, c'est ça la question. Et bien c'est le résultat d'une évolution et d'une fonction, et c'est intéressant de dire et de s'interroger sur ce à quoi servent certaines parties de notre corps. Par exemple, l'appendice, à un moment, on pensait que ça ne servait à rien, et on est en train de revenir sur ces réflexions.
Alors, parmi les deux phrases très importantes au début du livre, il y a cette idée que les corps femelles ne sont pas de simples corps mâles avec des trucs en plus. Être sexué s'insinue dans toutes les caractéristiques essentielles de notre corps, ainsi que dans la vie que nous menons à l'intérieur de ce corps, que nous soyons une souris ou un être humain. Et aussi, les corps sont fondamentalement des unités de temps. Et donc, c'est une phrase très importante, et c'est le projet de votre livre. Il s'agit d'explorer la manière dont les corps se sont sexualisés à travers les âges, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est à la fois un exposé pratique et c'est un exposé historique en même temps sur la façon dont les corps des femmes en particulier ont évolué depuis pratiquement l'aube de l'humanité, avant même que les hommes apparaissent en tant que tels.
Mm-hmm. Yeah, the strange thing about bodies is we think of them in our day-to-day life as one thing.
Les corps, quand on y réfléchit au quotidien, c'est une chose, mais c'est aussi un assemblage de systèmes complexes, et chacun de ces systèmes a des caractéristiques particulières, nées de l'évolution sur des millions d'années. Donc nos intestins, ce sont vraiment des choses tout à fait anciennes, alors que la partie frontale du cortex, c'est très récent, en fait. C'est tout à fait étonnant. Donc, raconter l'histoire de l'évolution du corps des femmes nécessite de s'interroger aussi sur quand et comment, et pas juste les questions habituelles. Et comment on est arrivé à l'utérus actuel et à l'allaitement qui est apparu alors qu'on n'avait pas encore de sein, que les femmes n'avaient pas encore de sein et qu'elles pondaient encore des œufs, les femelles.
Alors le livre s'appelle Ève, mais en fait il est divisé en plusieurs Ève. Il y a une liste de Ève. Vous écrivez « Nous ne pouvons pas plus désigner une Ève de la communication que nous aurions pu choisir une Ève de la vision ou une Ève de la reproduction. Il s'agit de caractéristiques fondamentales de la définition même d'un organisme vivant, mais on peut repérer la lignée évolutive d'une Ève qui paraît intrinsèquement être celle qui représente le mieux un trait devenu plus humain qu'il ne l'était précédemment. » Et donc, votre livre se divise en plusieurs chapitres qui correspondent à autant d'Ève, Morgie, qui apparaît 205 millions d'années avant notre ère et qui est l'Ève du lait mammalien avant l'apparition des seins, justement. Si vous pouvez en dire deux mots déjà.
Yes, I mean, I maintain that laying eggs is a much more sensible way to make babies.
Pondre des œufs, c'est une façon beaucoup plus simple de se reproduire. Moi, j'aurais volontiers préféré ce genre de système, mais bon, les mammifères ont abandonné ce système, malheureusement. Et je dis que c'est Ève. Sont intéressantes. C'est vrai qu'on a ces personnages centraux, et c'est vrai qu'on raconte des histoires. Nous sommes des animaux qui racontons des histoires. On se raconte d'où on vient, on se raconte aussi qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être français. Donald Trump se raconte aussi qu'on le trouve très séduisant. Tout le monde se raconte des histoires. Mais dans ce cas, c'est aussi une pensée scientifique qui nous amène à penser qu'on a tous ces ancêtres communs dans l'arbre d'évolution. Et toutes ces caractéristiques que nous possédons aujourd'hui, elles viennent, pour certaines, de cette petite créature à fourrure qui a su produire du lait.
Alors, chez Morgy, Morgy ressemblait à quoi à l'origine ?
Ah, she was this wonderful little, I don't know what to call her, weasel bitch. She was like the size of a human thumb. She looked a little bit like
de la taille d'un pouce humain, un peu comme un mulot des champs, mais elle avait encore les pattes sur le côté, un petit peu comme le crocodile. C'est là aussi que le bassin a évolué. Elle avait ses petites dents préhistoriques aussi, mais surtout, une fois que ses œufs avaient éclos, elle était capable de produire du lait, et c'est comme cela que
sans sein, c'est sans poitrine, sans mamelon.
C'est vrai que ce qu'on met dans des soutiens-gorge, nous, aujourd'hui, elle n'avait pas du tout ça. D'ailleurs, on ne sait même pas quand c'est vraiment arrivé. Et d'ailleurs, les mamelons aussi sont arrivés beaucoup plus tard. Mais donc, c'était que ça produisait des canaux qui produisaient du lait. Il y avait des poils mammaires et les petits de Morgy pouvaient s'allaiter ainsi, mais surtout, elles pouvaient leur donner à boire, elles pouvaient les hydrater.
Et donc, vous déclinez comme ça une série d'évolutions pratiquement par organe. Les premiers utérus, par exemple, le premier utérus, c'est Donna, je crois, dont vous dites que l'ère des mammifères placentaires s'est imposée juste après l'une des pires catastrophes, c'est-à-dire la disparition des dinosaures. C'est à ce moment-là que les utérus sont les premiers animaux dotés d'utérus sont apparus.
Yes. Now, as a writer, because I'm a scientist and an artist.
En tant qu'autrice, et je suis aussi scientifique, ma mère est d'ailleurs un pianiste, donc j'ai ces deux volets en moi. Donc c'était vraiment sympa de raconter l'apocalypse en tant qu'écrivaine. C'est vrai que ça permet d'être un peu lyrique, mais c'est vrai. Avec cet astéroïde, on a eu cette évolution, ce bond évolutif. S'il n'était pas arrivé, on aurait peut-être été comme des marsupiaux, finalement, avec des petits qui se développent dans la poche. Mais ils sont sans doute morts davantage après cet apocalypse, et finalement plus de nos ancêtres qui avaient cet utérus placentaire se sont imposés comme étant les plus nombreux et finalement ont réussi.
Et donc, ce que vous montrez, un des aspects fascinants du livre, c'est que vous montrez comment les organes ont évolué jusqu'à aujourd'hui, les traces qui restent de cette histoire chez nous, chez les êtres humains contemporains et chez les femmes contemporaines. Par exemple, avec Louis, vous expliquez comment les primates ont évolué pour entendre et produire des sons plus graves, comment les oreilles internes sont aujourd'hui masculinisées ou féminisées selon les cas, et comment les femmes ont tendance à être à la fois plus sensibles aux émissions auto-acoustiques. Et vous expliquez que ça remonte vraiment très très loin, si vous pouvez en dire deux mots là-dessus, parce que c'est cette histoire des organes dans le temps qui est intéressante.
Yes, Yeah, exactly. It's like, why are our bodies the way that they are? Well, it's usually because.
Et oui, pourquoi est-ce que nos corps sont ce qu'ils sont aujourd'hui? Bah, souvent des accidents de l'évolution, mais aussi les pressions de l'environnement. Et puis, ce qui ne tue pas, ce qui permet de faire plus de bébés, plus d'enfants, de se reproduire davantage. Et oui, Louis, c'est intéressant. Quand on s'est déplacé, qu'on a quitté le sol pour monter dans les arbres, et c'est arrivé peu de temps après la disparition des dinosaures, on avait un environnement acoustique très différent. Et c'est l'origine de Louis chez les primates. Nous, tous les deux, on s'entend bien dans ce studio. Mais si on avait des matériaux isolants, ce qu'on a d'ailleurs, des isolations phoniques, eh bien, on aurait beaucoup de mal à s'entendre, sauf si j'avais une voix beaucoup plus grave, parce que les basses, elles vont passer, elles vont traverser tout cela. Et les primates, dans ces arbres, avaient besoin d'une bande d'audition très large. On l'a encore, mais ce qui est intéressant avec l'humanité, des millions d'années plus tard, c'est jusqu'à ce qu'on a retenu de cette fréquence et dépend du fait d'être un homme ou une femme. Les hommes, à partir de 25 ans, commencent à avoir des difficultés à entendre les fréquences aiguës. À partir de la quarantaine, on va y avoir une perte auditive dans les aigus, ce qui n'est pas le cas des femmes. On ne sait pas pourquoi. Les femmes ne sont pas victimes de la même chose. Et les femmes ont une voix plus aiguë. Et du coup, les hommes, disons d'âge moyen, ont beaucoup de mal à nous entendre.
Vous émettez l'hypothèse que c'est peut-être parce que ça permettait aux femmes d'entendre mieux leurs enfants, les bébés en fait.
That's a very popular theory. Yes. Mm.
C'est la théorie qui a cours. Et c'est pour ça que je l'ai évoqué. On ne sait pas si c'est une optimisation au profit des bébés, parce que c'est vrai que c'est intéressant pour les femmes de garder cette fréquence aiguë, mais ça peut être aussi une histoire de réparation cellulaire plus efficace, et parce que c'est vrai que les hommes, malheureusement, vous n'avez pas de chance, vous vieillissez plus rapidement que les femmes, et peut-être que justement les pertes auditives, c'est parce qu'il n'y a pas une réparation aussi efficace, et du coup vous perdez dans les fréquences aiguës, et puis vous mourrez plus tôt. On ne sait pas pourquoi.
She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your
Alors, vous donnez d'autres exemples, hein, l'odorat, par exemple, les bulbes olfactives des femmes contiennent nettement plus de neurones et de cellules gliales que ceux des hommes. La vision, les femmes sont moins daltoniennes que les hommes. À chaque fois, il y a une explication plausible. En tout cas, il y a la formation, en fait, de ces différents traits remonte très loin dans votre livre, Eve, Kat Bohannon. Et en fait, le vrai sujet du livre, c'est la différence considérable entre le sexe biologique et l'identité de genre de l'humanité, qui est une donnée fluide et d'origine cérébrale, écrivez-vous, qui n'a que quelques centaines de milliers d'années au maximum. Donc, c'est en fait le livre et l'histoire de la sexualisation des corps. ce qui est un sujet brûlant en ce moment.
No, you don't bring that up at dinner every night.
Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas tous les soirs au repas, peut-être.
Mais dans le contexte des pays anglo-saxons particulièrement, il y a tout un débat en ce moment autour de la question de savoir s'il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, ou s'il n'y en a aucune. Ça a fait réagir beaucoup de monde, ça a provoqué beaucoup de débats brûlants. Il y a des exemples aux États-Unis, par exemple, la biologiste évolutionniste Carol Hooven, en août 2021, a eu des problèmes à Harvard, a dû démissionner de Harvard pour avoir dit pour avoir défendu l'usage des termes mâle et femelle et parler de sexe biologique. Votre livre arrive au plein milieu de ces débats-là. Comment vous vous situez par rapport à ça?
Oh, well, I don't think it's new in the history of feminism for middle-aged white women to wave a
rien de
flag that might
nouveau ici pour dans l'histoire du féminisme que des femmes comme elle brandissent ce genre de drapeau. Mais moi, je me suis intéressée à 200 millions d'années d'évolution et on a l'impression que c'est énorme, évidemment, mais on est finalement une espèce assez récente, et même sur cette période, parce qu'on est tellement déterminé par la culture, par les vies sociales que nous menons, ce serait quand même un peu bizarre de dire que la façon dont on vit dans ce monde avec les genres, c'est la même chose aujourd'hui qu'à l'âge de la pierre. Je crois qu'il faut, être un petit peu humble, et peut-être que le sexe et le genre sont différents, ce sont deux choses différentes qui ont des répercussions tout aussi importantes sur le corps, mais ce sont des choses séparées. Donc, pour essayer d'expliquer ma pensée à ce propos, c'est important pour la médecine d'étudier le sexe et le genre dans bien des endroits en Afrique et même aussi peut-être maintenant aux États-Unis. Mais on a de la kystosomiatose. C'est une infection qui est transmise dans l'eau, c'est de la cystomiatose, et on a plus d'hommes avec cette infection, et parfois on la voit plus chez les femmes. Mais en tout cas, plus souvent que prévu chez l'homme. Et c'est vrai que dans certaines cultures, les hommes pêchent plus que les femmes. Dans d'autres cultures, ce sont les femmes qui vont chercher l'eau à la rivière, qui lavent le linge dans la rivière. Donc, le genre dans ces cultures va avoir une influence sur ceux qui sont le plus exposés à cette eau infectée. Mais le sexe, la différence biologique, va déterminer aussi la réponse au traitement. Et donc, on a des réponses différentes, mais il faut s'intéresser aux deux si on veut sauver les gens et les empêcher de devenir aveugles à cause de cette infection transmise dans l'eau.
Dans le chapitre sur les jambes, vous parlez du squelette de Hardy, qui était découvert en Éthiopie au milieu des années 90, qui est le tout premier anthropoïde bipède. Et vous dites que c'est l'ève des jambes, des hanches, de la colonne vertébrale et des épaules des femmes. Et vous expliquez comment les Hardy est en fait responsable, en quelque sorte, du fait que les femmes ont souvent des problèmes lombaires. C'est-à-dire que le raidissement des os des parties supérieures et centrales, je vous cite, hein, du pied indispensable à la marche, nous oblige à transférer une force importante de nos chevilles vers l'avant de nos pieds, affaiblit l'articulation du gros orteil. Ajoutez-y un corps féminin qui a tendance à se balancer lorsqu'il est en mouvement, parce que les hanches sont plus larges, parce que les genoux sont mal fichus et les fesses plus adipeuses, et parce que les fémurs des femmes s'imbriquent dans l'articulation du genou en dessinant un angle, et forcément, ça crée des problèmes particulier, c'est-à-dire qu'au moment où les hominidés se sont dressés sur leurs pattes arrière et ont commencé à marcher, les femmes ont eu plus de problèmes que les hommes.
Well, it's sort of terrible for all of us. I mean, I am rapidly careening into middle age.
C'est épouvantable, parce que moi, je me dirige vers le mi-temps de ma vie et je commence à avoir des drôles de douleurs dans les lombaires, dans les genoux, etc. Donc, c'est vrai que quand on met un animal à quatre pattes et qu'on le redresse sur les pattes arrière, il va falloir beaucoup de choses pour que ça ne soit pas trop douloureux, pour que ça fonctionne. Mais comme vous le disiez, il faut aussi répartir les forces, parce qu'à chaque fois qu'on appuie sur le sol, qu'on dans la marche, eh bien, on a la force de réaction qui irradie dans tout le squelette, évidemment, et on ne veut pas être complètement choqué à chaque fois, à chaque pas. Mais c'est vrai qu'on a l'assise des pieds sur le sol, les genoux changent aussi, on a aussi le muscle fessier qui devient plus important pour nous tenir droit. Et donc, ça devient comme un ressort. Et on a besoin de ce ressort dans notre squelette pour ne pas être secoué à chaque pas. Mais pour les femmes, comme elles deviennent enceintes, comme elles portent les enfants, ça modifie le centre de gravité. Plus on est enceinte, et d'ailleurs, on peut se représenter cela, on a le centre de gravité qui passe vers l'avant. Alors que si on est une femelle chimpanzé, on marche sur les mains, à quatre pattes, et on le voit dans les études des colonnes vertébrales des femmes enceintes, on a une hyperlordose, la femme est beaucoup plus cambrée, et ça exerce une pression plus importante sur les lombaires. Alors, on peut récupérer, c'est vrai, mais ça devient parfois problématique avec l'âge.
Et vous dites que c'est pas seulement une question de position, mais les règles jouent aussi un rôle dans les douleurs, parce que ce qu'on appelle le lutéum, un petit corps jaune qui reste c'est le reste du follicule qui a libéré l'ovocyte en fait au moment de l'ovulation, et ce lutéum produit davantage de relaxine qui détend les muscles en fait et qui crée des problèmes supplémentaires.
Yes, absolutely. So relaxin seems appropriately named. It's
a la relaxine,
circulates in the blood. It's
true. L'a bien nommé, circule dans le sang, et les femmes en ont plus en raison de la production des ovaires. Et c'est vrai que c'est pas juste un stéréotype. Les femmes sont plus souples en général parce que cette relaxine rend les articulations plus souples. C'est pour ça que les pieds s'élargissent pendant la grossesse et aussi pendant le cycle menstruel. On a aussi des périodes où l'on est plus souple, où la production est augmentée. Quand on met des hauts talons et que l'on a cette pression supplémentaire sur les genoux, eh bien la relaxine rend la marche un petit peu plus instable. Finalement, le port de talons, c'est moins dangereux quand on a des testicules. Company always on the run. Destiny is the rising sun. Well, I was born. I'll make my final stand. Yeah, that's why they call me bad company. I can't deny bad company until the day I die. The day
Hey. Ève par Kat Bohannon, 200 millions d'années d'évolution au féminin, l'histoire des Èves qui constituent les corps des femmes aujourd'hui. Et mes deux préférées dans le livre, la première sont l'Ève de la voix. Je voudrais que vous nous en parliez un peu. Vous dites que nous sommes les seuls anthropoïdes parlants et que paradoxalement, la plupart des histoires sur l'origine du langage ont été plutôt masculines. Et vous dites que les voix des femmes, quand elles parlent, leur cerveau envoie des signaux d'impulsion plus fréquents au diaphragme et aux muscles inspiratoires que ne font ceux des hommes. Autrement dit, c'est plus difficile pour les femmes de parler que pour les hommes.
Alors, je ne sais pas si c'est plus difficile pour les femmes. Mais disons qu'on a des contrôles neurologiques beaucoup plus fins. Alors peut-être parce que nos poumons sont plus petits, vos muscles intercostaux sont beaucoup plus résistants. Alors il est possible que les femmes aient développé des contrôles neurologiques pour compenser cela. La voix des femmes, en général, est un peu plus douce. Je sais que c'est un stéréotype, mais c'est le cas. Un petit peu plus précise et très bonne quand on est à distance rapprochée. Et vous, physiologiquement, les hommes, vous êtes meilleurs quand il s'agit de hurler.
Et vous dites que la muqueuse du larynx féminin se modifie dans le courant du cycle menstruel. Donc, encore une fois, il s'agit vraiment de sexualisation, quoi.
Toutes les muqueuses du corps réagissent, que ce soit le col de l'utérus ou le vagin. Et le larynx aussi, puisque on est comme, pour la voix, c'est un peu comme un soufflet ou un instrument à vent. Et donc, on a pas mal de muqueuses et de liquides, de fluides nécessaires pour que ça fonctionne. J'avais une amie qui dirigeait une chorale et qui me racontait qu'il y avait une différence chez les femmes qui devaient modifier peut-être leur programme de concert en fonction de leur cycle menstruel ou alors rester sous pilule tout le temps parce que ça modifie la voix. Et en revanche, quand on est au milieu du cycle menstruel, la voix des femmes, elle est extraordinaire.
Et l'autre Ève, ma préférée, je crois, c'est celle que vous appelez l'Ève du langage. Vous dites que le langage est quelque chose que les mères et les bébés font ensemble. Apprendre à parler nécessite une enfance humaine. Voilà pourquoi le récit du masculin de l'évolution du langage est à côté de la plaque. Parce que la voix que vous entendez le plus quand vous êtes enfant, évidemment, est celle de votre mère. Le visage que vous voyez le plus est le sien. Sans elle, vous ne pourriez pas survivre. Mais elle représente aussi l'essentiel de votre vie sociale. S'il y a quelqu'un au monde avec qui il faut que vous trouviez le moyen de communiquer, c'est elle. Donc le langage est d'abord ce qui noue l'enfant et sa mère.
Yeah, there's no more important communication dyad. That's what we call it.
Oui, il n'y a pas de dyade plus importante en termes de communication pour la communication. Le petit est celui qui s'occupe de lui, et c'est vrai que dans notre espèce, en général, ce sont les femmes, ce sont les mères qui, pendant les premiers mois, vont communiquer avec l'enfant. Et ce bébé, il va acquérir le langage dans un contexte où il passe le plus de temps avec sa mère. Évidemment, on va acquérir le langage. Et c'est vrai qu'on a envie d'acquérir le langage. Steven Pinker a raison, mais c'est vraiment c'est cette première communication qui est tout à fait essentielle. Et c'est vrai que l'histoire de l'évolution du langage, même avant la chasse, où on pouvait hurler des ordres pour chasser une gazelle, mais en fait, les schémas de chasse compliqués n'ont pas forcément besoin de langage, mais les sociétés complexes ont besoin du langage. langage, et cela, ça repose sur ces interactions premières.
Et vous dites que c'est pas seulement les mots, la clé de la communication entre l'enfant et sa mère, c'est le vrai bénéfice, vous écrivez, c'est la grammaire, c'est-à-dire la substance même de la pensée humaine.
And I'm not the first to say it. The thing that distinguishes human type,
ce qui distingue le langage humain d'autres communications dans le règne animal, c'est la grammaire. Ça a l'air un peu bizarre de le dire, mais c'est vraiment ce fait que l'on puisse exprimer des millions de choses avec très peu de mots associés dans une combinaison particulière. Et je ne veux pas plonger dans la linguistique maintenant, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait caractéristique. C'est ce qui nous permet aussi d'imaginer des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Les métaphores deviennent possibles grâce à cela, grâce à la grammaire. On peut dire, par exemple, que un violon qui parle, voilà, et ça s'entend parce qu'on a ce langage et la grammaire qui l'articule. Et c'est cela qui permet la métaphore. Et l'imagination humaine.
Alors voilà, et ce que vous dites, c'est que l'arrivée du langage humain n'a pas laissé de fossiles à proprement parler. On a parlé avant d'écrire, donc le langage oral, par définition, n'a pas laissé de fossiles. Et vous interrogez, vous dites qu'il y a eu dans l'évolution du langage humain un moment qui a marqué une frontière. Avant, nous n'étions pas encore humains, après, nous l'avons été. Et vous interrogez sur le moment où la toute première histoire a été racontée à un unique être humain. Et vous supposez, c'est assez logique, qu'un enfant agité avait besoin de dormir et sa mère, qui avait besoin de dormir plus que lui encore, a essayé de le calmer en lui racontant quelque chose.
Dans chacun des chapitres, il fallait que j'explique non seulement l'évolution de ces traits, de ces caractéristiques biologiques, mais aussi de ce qui correspondait à l'évolution humaine. À quel moment cette communication qu'on appelle le langage est devenue véritablement humaine ? Un cerveau qui n'aurait jamais entendu d'histoire, peut-être que ça pourrait être aussi un cerveau humain, mais pas d'histoire, on lui aurait rien raconté, parce que c'est la lune, les étoiles, etc. Il fallait un moment quand même où il fallait raconter une histoire. Et dans nos vies d'hommes et de femmes, on a envie d'écrire des grandes histoires, des choses avec un souffle épique, mais finalement, beaucoup de ces moments et des débuts de langage sont tout petits, sont des choses très modestes, avec, oui, en effet, une mère qui raconte une histoire à un enfant qui pleure. Et moi, je trouve ça très touchant. Pourquoi ne pas imaginer que c'est ce moment-là où tout a basculé, où voilà, où c'est arrivé, où cette femme a raconté une petite histoire et l'enfant s'est endormi. Ça me semblait beaucoup plus convaincant que des gars en train de s'exciter autour d'un feu de camp et en train de se prendre vraiment pour des héros.
Et c'est la seule que vous ne nommez pas, l'Ève de la première histoire, c'est la seule à qui vous ne donnez pas de nom.
How should I give her a name? She's human.
Oui, bah comment lui donner un nom? Elle est simplement humaine. Voilà, donc Homo sapiens, c'est comme ça que je les appelle. Ceux qui sont arrivés sur ces 300 000 dernières années, comment lui donner un nom?
Et
je trouve que c'est plus beau qu'elle reste anonyme.
Et je vais vous citer pour finir, vous dites, parce que quelle histoire est-ce qu'elle a raconté? Vous dites, il n'existait pas encore grand-chose de la hiérarchie sociale qui nous est familière. Il n'y avait rien qui ressemblait de près ou de loin à un seigneur ou à un roi. Mais peut-être les choses étaient-elles très simples. Un thème éternel accompagne en effet l'humanité depuis ses tout débuts, la faim. Si l'histoire de nos ancêtres parle de quelque chose, c'est de survie, de faim et de migration, de la force inébranlable de la mort qui nous pousse constamment de l'avant, qui nous fait partir vers la ligne grise d'un horizon lointain. C'est de là que nous sommes venus et c'est elle qui nous pousse aujourd'hui encore.
Out of a storm into a stranger's warmth, but hard hearted, she sees what must be done. She takes off her coat and rolls up her sleeves and starts pitching in. Hannah has a special knack for getting people back on the right track, 'cause she knows. So she doesn't argue or flatter. She doesn't fight the slights. She takes it on the chin like a champ.
Merci Kat Bohannon d'avoir été présente aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Ève, 200 millions d'années d'évolution au féminin, aux éditions Flammarion, traduit par Odile Demange. Et merci Caroline Mandron d'avoir été là pour la traduction. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille avec à l'aide technique Mineta Diawara et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
Good grip on your grief. Hannah says, don't get me wrong, this is no simple Sunday song where God or Jesus comes along. Yeah.